Marilyn,
qui c'est là? Ah oui, c'est pas grave.
Non, non,
c'est pas grave. Bien, vous allez enregistrer le coup. Bon, alors je vais vous rappeler très rapidement, on va changer de sujet complètement. C'est-à-dire le sujet du coup. Et je vais vous rappeler très rapidement le résultat de l'analyse de la dernière fois. Nous avons commencé à voter pour même la liberté, vous en souvenez? Bon, et nous sommes arrivés à. Dans la conclusion suivante, c'est que la contradiction qui est perçue dans, disons, la mentalité de la culture occidentale, à la suite de siècles de cultures qui se sont développées à partir des postulats de la pensée grecque, disons de la tradition de pensée grecque, du point de vue de la méthode des sciences, parce que, bien évidemment, l'âme grecque, l'identité grecque, a eu différents, un carrefour d'hypothèses, d'options spirituelles ou intellectuelles qu'elle a envisagées, mais finalement l'histoire a fait que c'est cette direction qui a été choisie, transmise à l'Occident, c'est le principe du déterminisme. Rappelez-vous. Et alors que dans l'atmosphère culturelle de l'Occident, il y a apparemment une contradiction de principe entre le principe du déterminisme et le principe de la liberté pour l'homme, d'où et que ce problème est rencontré comme, a priori, pas de solution, en tout cas au niveau de la raison, au niveau aussi de la perception rationaliste des choses. Je vais peut-être un peu profiter de ce que nous avons entendu cet après-midi, en tout cas du moins dans les expressions de la ordinaire, pour vous revenir les problèmes. Je vous dis personnellement, je pense que vous aussi, apprécie cet apologue, celui qui va à pied et celui qui va à cheval. Et alors, en réalité, nous avons vu que du point de vue de l'enseignement de la Torah, loin que ces deux principes soient contradictoires, l'un est la condition de l'autre. Nous aurons à exploiter cette découverte dans beaucoup de sujets, mais retenez déjà le principe directeur de cette option de pensée, c'est-à-dire que pour que la liberté puisse être fondée, il faut que le monde extérieur soit déterminé. Alors on apprendra, à propos de différents sujets, que cette détermination joue de façon différente, par degré, et suivant les niveaux d'être. Je vais prendre un schéma très global. Il y a deux pôles, deux polarités dans ce que je vous appelle les niveaux d'être. Prenez-les horizontalement, verticalement, peu importe. L'être qui se définit surtout dans l'ordre de la quantité, et la quantité pure, c'est l'être mathématique. Et là, le déterminisme est total. Et l'être qui se définit surtout dans l'ordre de la qualité, la valeur, la personne, le sujet, et la réalité. Alors dans la quantité, il y a l'impersonnel, et là, c'est la règle, c'est la liberté absolue. Et là, le déterminisme est le moins apparent, le moins présent. Vous comprenez ? Tous les niveaux d'être, toutes les manières d'être qu'on explore dans le système des sciences, du point de vue de la recherche de la connaissance, de l'être mathématique, la quantité pure, à l'être physique, la matière la plus déterminée, et puis on monte de genre de schématise rapidement, l'être biologique, l'être psychologique, l'être social, bon, vous voyez. Alors on va du pôle de la quantité de la personnelle au pôle de la qualité et de la personne, et donc le déterminisme, comment dire, change de degré, de degré d'absolu, à travers ces deux. Vous avez vu ? Mais dans tous les cas, pardon.
Qu'est-ce que vous entendez dans être dans la quantité?
Être en tant que l'on est quantité. Par exemple, un être occupe une certaine superficie dans l'espace. Donc finalement, ça se résume à un chiffre. Un être occupe une certaine durée dans le temps. Finalement, ça serait une chose. Alors, l'être qui existe sous forme de quantité pure, c'est la notion mathématique. Quand vous cherchez à établir les règles, les lois qui régissent le rapport entre les êtres mathématiques, les notions mathématiques, eh bien, vous arrivez très vite à percevoir que ces lois sont soumises à un déterminisme absolu, qui sont les règles de la logique. Je vais employer le vocabulaire. Le déterminisme sans exception. c'est celui qui régit l'être mathématique. Le déterminisme avait déjà une petite marge d'indifférenciation, c'est celui qui régit l'être physique, avec une plus grande marge de différenciation, de réactions différentes possibles, c'est celui qui détermine l'être biologique. Et plus on monte dans le niveau de l'être, en partant de l'être quantitatif impersonnel, pour arriver à l'être qualitatif de la personne, plus le déterminisme s'aménage en conditionnement faisant une place à l'indifférenciation qui, à un certain niveau, s'appelle la liberté, et elle est liberté pure au niveau de la volonté. Bon, alors, moi je pensais que vous étiez déjà familier à cette distribution des niveaux d'être, de la quantité à la qualité. Je vous donne un exemple. Au niveau du corps, bien. Qu'est-ce que c'est que la douleur au niveau du corps? Allez, mettez entre parenthèses la sensation de douleur, le phénomène de conscience de douleur. Ce qui est douloureux dans ma conscience, lorsque mon corps est atteint par une détérioration des tissus. Mais au niveau du corps, dans l'être physique, ce qui se passe, c'est une modification de la quantité, une modification quantitative. Finalement, ça se traduit dans ma conscience par une qualité qui est un phénomène de conscience que j'appelle la douleur. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mais la modification des vibrations qui font la matière de ma main, elle n'est pas douloureuse, elle est une modification de l'espace. Elle est dans l'ordre de la quantité. Le phénomène de douleur, qui est un phénomène de conscience, est dans l'ordre de la qualité. Bon, vous comprenez à peu près cette différence de niveau d'être. Est-ce que c'est clair? Par exemple, la loi mathématique eh bien, est d'une rigueur absolue, ce qu'on appelle si bien un théorème. Alors que déjà au niveau physique, la loi physique laisse une possibilité de réactions différentes à la même action. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des lois physiques où, à une action donnée, il peut y avoir un nombre limité, mais déjà nombré, de réactions différentes. Je vous donne un exemple. Si je fournis une quantité de chaleur à un corps, eh bien le résultat peut être, suivant ce que le corps est, soit de la coagulation, si par exemple c'est un jaune d'œuf, un blanc d'œuf, soit de l'évaporation, si c'est de l'eau, soit de la liquéfaction, si c'est un bloc de glace. Vous voyez, il y aura une même action au niveau physique, les réactions sont différentes. Alors on sent que la détermination est absolue dans l'ordre quantitatif pur. Au fur et à mesure où on passe des niveaux de l'être de l'ordre de la quantité au niveau de l'être de l'ordre de la qualité, cette détermination s'aménage. À un certain moment, elle n'est plus détermination, mais conditionnement. Conditionnement, ça veut dire, ce serait contradictoire logiquement, mais c'est tout expliqué, conditionnement, c'est un autre concept dont je vais me servir en me basant sur l'enseignement de Maïmonide. Conditionnement, ça veut dire, ce serait une détermination, mais qui laisse une part à la liberté. C'est contradictoire. Détermination, il n'y a pas de part à la liberté. Vous voyez que conditionnement, ce n'est pas la même chose que détermination. Déterminisme, conditionnement. Et puis, plus on monte dans le niveau de l'être, et plus on découvre qu'il y a une manière d'être qui consiste à être libre. C'est l'ordre du sujet, de la personne, de la qualité, de la valeur. Or, l'homme est une sorte d'individu, individu dans le sens logique du terme, un individu exceptionnel, qui rassemble dans son identité tous les niveaux d'être. Je suis quantité pure par la plante des pieds et qualité pure par ma volonté. Mais tout ça, c'est moi avec tous les niveaux, en passant par tout ce que vous voudrez, le système digestif, le système sanguin, tout ce que vous voudrez. Okay. Vous voyez, j'ai en moi une sorte de résumé d'univers de toutes les manières d'être, depuis la quantité pure jusqu'à la qualité pure. Tout ça, si je l'étais dans la silhouette de l'homme, tout ça, c'est un sujet. Okay. Alors, ce phénomène humain, eh bien, échappe au principe d'un déterminisme pur et simple. On va parler de conditionnement, mais le conditionnement laisse une place à la liberté, et c'est ce que je veux dire. Mais surtout, ce qu'il faut découvrir, c'est qu'il n'y a pas de contradiction théorique entre la notion de liberté attribuée à ce sujet humain, au niveau de sa volonté en tout cas, et la notion de déterminisme du monde extérieur qui, lui, effectivement fonctionne d'après un déterminisme qui n'a pas d'exception, les lois de la nature. Dans un concept simple. Alors, en atmosphère de culture occidentale, les deux notions sont contradictoires. On aura tendance à nier la liberté au nom du déterminisme. Et comme il est vrai qu'il y a du déterminisme, puisqu'on l'a découvert, dans l'exercice de la science, c'est la notion de liberté qui est en question, pour l'Occidental. Alors que pour une toute autre mentalité culturelle, je prends une toute autre polarité orientale, tout est libre. Même ce que l'Occidental croit être le phénomène déterminé par des lois de la nature. Ce sont des perceptions du monde radicalement différentes. Bon, mais je l'ai dit souvent, l'identité Israël n'est ni totalement l'Occident, ni totalement l'Orient, c'est autre chose, c'est Israël, et nous avons un lien avec l'Orient et un lien avec l'Occident. Le lien avec l'Occident, ça s'appelle le monde Ashkenaz, si vous voulez, le lien avec l'Orient, ça s'appelle le monde Sfarad, en sociologie, si vous voulez. Mais dans tous les cas, l'hébreu peut parler à l'occidental, peut parler à l'oriental, mais il n'est ni oriental ni occidental seulement. Est-ce que c'est clair ce sujet? Et j'ai fait peut-être allusion à ce principe dans certaines analyses, et comprenez bien que c'est effectivement cette identité hébraïque-là qui est en processus de résurrection en Israël moderne, contemporain. Et dans le stade où nous sommes, du rassemblement des juifs redevenant hébreux. C'est un premier stade, et puis qui engendre le statut. On n'a pas mal de choses. Et alors, au contraire, ce qu'il faut découvrir, alors je vais essayer de vous faire passer en français une intuition hébraïque, c'est que la liberté ne peut fonctionner que s'il a une base de détermination du monde extérieur. Est-ce que l'idée maintenant est intégrée ? Seul celui qui peut s'appuyer sur une loi est libre. Notre idée, tout à coup, vous pouvez notre idée. Et vous trouvez une référence. Et quand vous commencez à étudier tous les textes qui parlent de ces choses-là, vous les trouvez chacun à sa place. Retenez bien l'idée. Seul celui qui peut s'appuyer sur une discipline est libre. Je vous donne un exemple en pédagogie. Il n'y a rien qui affole plus les enfants que lorsque les parents ne sont pas disciplinés. Parce qu'ils ont l'expérience d'un monde qu'on appelle un OFK. Un OFK en français. Sans règles, sans normes. Un monde affolant pour l'enfant. Okay? Si les parents se contredisent, par exemple. Et pas seulement si ton papa dit oui, maman dit non, c'est un autre problème. Ça, ça amuse les gosses. Mais ça, c'est une histoire de grand. Je vois ça. Mais c'est quand le père ou la mère, la même personne, un jour dit oui, un jour dit non. Bien. Ça affole l'enfant. Et il y a des traumatismes qui se dévoilent plus tard dans la vie et qui ont leur racine là. Parce que quand l'enfant avait 2 ans ou 3 ans, un jour on lui dit oui, sur la même chose, un jour on lui a dit non, sans lui expliquer que ce jour-là c'était oui, ce jour-là c'était non. Par exemple. S'il n'y a pas de règle, alors il y a une espèce d'atmosphère de conscience magique. Qu'est-ce que c'est la conscience magique? On est dans un monde capricieux. Arbitraire. Vous voyez, et la liberté de l'arbitraire, c'est pas de la liberté, c'est de l'arbitraire. Enfin, c'est déjà la déréduction. C'est un mot compliqué, vous connaissez ce mot-là, déréduction. Je vous donnais un exemple, faire un grand ce mot-là. Vous connaissez l'adjectif onirique? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire onirique? Ce qui se passe dans les images de l'air, ok? Mais ce qui se passe, c'est de la dérédition. Ça veut dire des associations de notions ou d'images sans règles. Il y a une cohérence, mais c'est la cohérence de l'incohérence dans le monde des images. Vous comprenez? Et alors, ce qui est libre en nous, la volonté, ne peut pas s'appuyer sur une stabilité des phénomènes, ce qui lui permet de prévoir l'instant suivant, la liberté ne peut pas fonctionner. Elle est assassinée, renvoyée à l'atmosphère de la conscience magique. C'est une conscience affolée, parce qu'elle ne peut pas prévoir dans l'instant suivant si les phénomènes fonctionneront de la même manière que dans l'instant précédent. Et c'est ce que on a découvert qu'il y avait des façons de pouvoir étudier ce phénomène, on peut même le créer artificiellement. Parce qu'on a découvert, à la suite des malheurs de l'humanité, les camps de concentration, la famine, tout ce que vous voulez, il y a des carences alimentaires qui provoquent l'expérience de la conscience magique. En particulier, on a fait des études, je me rappelle des études d'ethnologie, je cite ça un peu de mémoire, mais tout ça existe dans les manuels, découvert qu'une carence en sel menait à la conscience magique. Oui, le sel. NACL.
C'est ce qu'ils font dans les sectes.
Hein?
C'est ce qui se passe dans les sectes.
Par exemple.
On leur fait leur donne des carences alimentaires, ce qui fait qu'il agit de...
Eh bien, tu vois, c'est solide. C'est solide. Tu parles des sectes contemporaines.
Oui,
des oui, procédés.
On entend parler.
Oui, secteurs. Oui. Bon, le monde et compagnie, oui. Ils sont dans la vie de cela. Oui. Et moi, je me souviens que j'étudiais cela dans un chapitre de théologie complètement différent. C'était pourquoi, dans les pays chauds en particulier, la monnaie, c'était les barres de sel. Vous vous rappelez cette époque-là? Parce que dans un pays où on transpire beaucoup, il y a une carence en sel, il faut manger du sel pour pouvoir compenser la perte des sels par la transpiration. Alors finalement, au point que le sel apparaissait comme une réalité magique, une valeur magique, qui remplit la vie. Bon, de toutes les façons, vous comprenez pourquoi, pour la moitié, on met du sel. C'est aussi une raison qui peut être réelle. Parce qu'il faut nourrir le corps et la bouche. Bien. C'est pas une blague. Ça, c'est une partie d'un problème qui s'appelle le parallélisme psychophysiologique. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le corps a un retentissement dans la vie de la conscience, un retentissement dans le psychisme. On étudiera ce principe à propos de la cache chaude d'ailleurs. Vous comprenez quel est le sens. Il est bien évident que si le monde extérieur, le monde de ma perception, n'est pas stabilisé par des règles que je peux maîtriser de telle sorte de pouvoir prévoir, prévision de mon action ne peut pas se développer, ça veut dire que ma liberté se résorbe dans l'arbitraire, qui est tout le contraire de la liberté, qui est l'affolement. Okay. Je vous donne un exemple. Une petite parenthèse d'analyse de vocabulaire. Si vous posez la question suivante, qui est une espèce de mystère dans l'histoire de la philosophie, quelle est la différence entre une sensation et une image? Alors je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce une sensation et ensuite qu'est-ce une image. Une sensation, c'est quand je me représente un objet extérieur à moi, à ma conscience, que ce soit ma mère, je sais pas. C'est-à-dire, j'ai une sensation quand je perçois en même temps le contenu de connaissance qui m'est transmis par l'objet. Et j'ai le sentiment de l'existence de l'objet pour lui-même. J'emploie des termes pas philosophiques, pour ne pas vous compliquer les choses, mais vous comprenez l'idée. Hein? Je dis sensation quand il y a à la fois le contenu cognitif, le contenu de connaissance et le sentiment d'existence de l'objet dans mon existence. L'image, c'est quand j'ai ce contenu de connaissance sans le sentiment d'extériorité de l'objet, plus que extériorité, d'existence de l'objet, sans le sentiment de réalité de l'objet. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait la différence entre une sensation et une image? Toutes les réponses qu'on pourrait donner n'arrivent pas à résoudre le problème, parce que ça explique pour certaines images, beaucoup d'images, beaucoup de sensations, mais jamais pour tout à la fois. Par exemple, si on dira qu'une sensation est une sensation forte, alors l'image est une sensation faible. Disons que la sensation serait une image forte, alors que l'image serait une sensation faible. Ça ne suffit pas. Il y a des images fortes qui se font prendre pour des sensations, par exemple hallucination, c'est quand une image se fait prendre pour une sensation. Il y a des sensations faibles qui se font prendre pour des images, par exemple les mirages, non pas les mirages exactement, mais par exemple des sensations faibles, on se pèse, ça reste que je rêve, ok hein? Oui, des illusions. C'est-à-dire des sensations qui ne comportent pas avec elles le sentiment de réalité, et pourtant, si je m'approche, il y a sensation de résistance. C'est clair? Voilà un essai d'explication, mais ça ne suffit pas à résoudre. Je vais vous donner la réponse. C'est ceci. C'est que les sensations sont des images qui obéissent aux lois de la nature, qui sont indépendantes de ma volonté, qui sont déterminées par une cohérence que j'appelle loi de la nature. Alors que les images sont des sensations qui n'obéissent pas aux lois de la nature. C'est vrai? Vous voyez la différence entre la connaissance dans l'état de veille, l'éveil, et la connaissance dans l'état de rêve. Okay? Même si le rêve est éveillé dans le rêve, okay? Les images ont des liens entre eux, il y a une cohérence qui n'obéit pas du tout à la logique des lois de la nature. C'est une cohérence poétique, c'est une cohérence plus que poétique parfois, mystique, qui véhicule une signification. Mais ce n'est pas la cohérence des lois de la nature. Il en est que devant les sensations, je suis libre, alors que devant les images, je ne suis pas. Prenez la communion, c'est un peu.
Est-ce que c'est clair? Vous suivez?
Bon, je vous donne un exemple. Essayez de vous rappeler d'un rêve, mais d'un cas particulier de rêve, où vous êtes un des personnages du rêve. Et bien toujours, ça s'accompagne d'un sentiment de malaise qui est qu'on subit une histoire dans laquelle on n'est pas lui. Bon. Dès qu'on se réveille, on se rassure. Grâce à Dieu, c'était un rêve. Ou le contraire. Non, mais je vais nuancer. Parce qu'il y a une assaise de la vie spirituelle qui fait qu'on arrive à se libérer dans le rêve et à agir. Bon, je vous en ai raconté science-fiction. Okay. Imaginez un savant qui cherche un secret pour faire une invention importante. Un secret de la connaissance. Et puis il rêve. Ça arrive surtout dans les rêves répétitifs qui reviennent les mêmes. Et puis il rêve, il se trouve dans une bibliothèque, et que, il sait, on lui a dit, ou il sait pas comment, mais il sait, que dans tel tiroir, il y a une clé qui ouvrirait tel placard, où il y a le livre qu'il faut qu'il lise pour retrouver cette invention. Non, je vous invente un rêve. Alors la première fois, eh bien il est là, et il sait ce qu'il faut faire, mais il ne peut pas, parce qu'il n'est pas libre dans le monde des images. Puis avec une assaise, alors, de rêve en rêve, il s'approche du tiroir, sauf un jour, il ouvre, il trouve la clé, il lit le livre, il revient. Bon, je vous invente bien ce rêve. C'est-à-dire, finalement, on peut arriver avec un cesse à se libérer dans ce genre de rêve. Mais, c'est très rare, ne jouez pas à ça. En général, dans le rêve, c'est ce que je vous donnais comme illustration, dans le rêve, eh bien, on n'est pas libre. Pourquoi? Parce que les images n'obéissent pas au de la nature. Subitement, un éléphant devient un chat. Bon, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des associations d'images qui obéissent aux lois de l'association, mais qui n'obéissent pas à cette règle que je vous appelle le déterminisme, qui nous garantit l'efficacité du fonctionnement de la liberté, parce que le monde extérieur est déterminé. Vous avez un petit exemple pour relier ça à un problème de Halakha. Quand on étudiera les lois du Kriyat Shema, on s'apercevra que la Torah a demandé de lire le Kriyat Shema, enfin de réciter, de proclamer. Après, le verset dit Beshon Becha Kumer, au moment où on se couche et au moment où on se lève. La Halakha va établir, et puisqu'on cherche la règle objective pour tous, que le moment où on se couche, c'est quand il commence à faire nuit. En général, quand on est normal, on dort la nuit, on travaille le jour. Et si au moment où on se lève, c'est quand il commence à faire jour. Et d'ailleurs, la vie normale serait qu'effectivement, on se lève dès que le jour pointe et qu'on s'endort au coucher des étoiles. À l'apparition. Enfin, je veux dire qu'on se couche avec les étoiles. Bon, tu me rappelles une blague de la Manac Vermont, il s'appelle toujours comme ça, c'est une blague.
Oui.
Quelqu'un qui.
Passe à moi.
Oui. Il s'est fâché avec sa princesse parce que sans sortir voir les étoiles et elle a dit comme ça, poétiquement, que le ciel est beau, étoilé. Allez, on regarde.
Non.
Alors, en réalité, on étudie ça. Ça y est, c'est clair. Alors on verra lorsqu'on étudie ce texte de la Gemara qui parle de ce problème de Halakha, on voit que lorsqu'on établit l'ordre de la liturgie du Kachma, on la base sur le verset de Beshkobecha Bukumecha, et on apprend, en te couchant, en te levant, on apprend que la règle du Kachma, c'est d'affirmer l'unité de Dieu chaque fois qu'on passe d'un monde à l'autre. Chaque fois qu'on est dans un temps de passage d'une expérience d'un monde à un autre, que pourrait apparaître l'hypothèse d'une dualité d'absolu, c'est dans le moment de passage, précisément, qu'est le temps de l'affirmation du Kriyat Shema. En se couchant, on quitte le monde éveillé, on entre dans le monde des images, du rêve. Et ils sont tellement différents que l'hypothèse, pour le moderne, elle est plus ou moins inconsciente. Enfin, pour un homme qui vit en phase avec les phases de la nature, le jour c'est le jour et la nuit c'est la nuit. Et le crépuscule, c'est le crépuscule, et ça pose un problème. On a quitté le monde du jour, on rentre au monde de la nuit, ça n'a rien à voir. Combien d'absolus y a-t-il ? À la limite, combien de dieux y a-t-il ? Le dieu du jour, le dieu de la nuit. Comment celui qui a créé le jour a créé la nuit ? C'est incompréhensible. Vous voyez, après le genre de problème qui se pose à la conscience, c'est précisément au passage d'un monde à l'autre qu'on dit « Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad ». Mais fais attention, quelles que soient les apparences, sache, rappelle-toi que c'est un. Bien que, ça y est, et ce fut soir, ce fut matin, mais le jour est un. Alors vous voyez, ça nous met en évidence le fait qu'effectivement nous avons à ce moment de passage un moment critique. Et en se couchant, c'est en se levant. Nous passons d'un monde à l'autre. Alors c'est le temps de dire Kriyat Shema. Bon, et vous savez qu'à la limite, on dit Kriyat Shema quand on passe d'un monde à l'autre. Quand on quitte ce monde-ci pour aller dans un autre monde, à ce moment-là, on dit Kriyat Shema. C'est clair ? Vous rappelez de ça ? Oui.
Mais au niveau des relations de l'individu
avec l'autre,
on ne sait pas comment
on va arranger. Bon, justement, on va parler des obstacles possibles à la liberté, mais ça ne nie pas le principe de la liberté. Une liberté et risque de s'opposer, comment dire, de se heurter à des obstacles, ça on verra de l'autre part. Ken, tu as raison. Et justement, effectivement, on ne peut, on est vraiment libre qu'avec quelqu'un qu'on connaît. C'est une des conditions de l'amour. La raison pour laquelle, bon, je ne vais pas vous parler de psychologie appliquée maintenant, ça nous ouvre dans une parenthèse, mais on ne se laisse pas connaître. Tant il y a difficulté de se faire connaître et reconnaître, tant qu'il n'y a pas confiance. Parce que si je dis qui je suis, et l'autre saura qui je suis, il sera libre par amour à moi. Je continue ta question. Mais s'il ne me dit pas lui en même temps qu'il est, alors je suis défavorisé, enfin je suis handicapé. Vous comprenez ? Pourquoi les gens se cachent derrière des masques tant qu'ils ont peur de l'autre ? D'ailleurs, dans les sociétés traditionnelles, je ne vais pas dire sociétés primitives, c'est assez négatif, et dans ceux traditionnels, il y a un certain nombre de choses qui définissent la personne humaine qu'on ne dit pas à l'autre avant. À moins qu'il soit un ami, dans le sens fondamental, avant qu'on soit en alliance d'amitié. Par exemple, on ne dit pas son vrai nom. Parce que le vrai nom, quand on comprend un nom, donc dit qui est la personne. Alors on se dit un surnom, un totem, ok ? Pour se cacher. C'est exactement ça. Et des fois le totem, c'est un nom. On a des surnoms comme il y a des survêtements. On ne dit pas, il y a trois choses d'après la tradition qui définissent l'identité d'une personne. Et si on la connaît, on connaît cette personne. C'est le nom, le champ, c'est-à-dire chaque personne a un champ à lui. Ça mérite. C'est-à-dire ça me gagne. 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 Chacun a une mélodie qui est la sienne. Et qui est, que personne d'autre n'a, et que lui seul a la mélodie de chacun. Bon, vous savez, les modernes sont tellement stérilisés, alors je ne trouve pas d'autres mots, qu'ils ont perdu tout. Mais chaque homme vivant, chaque homme, chaque femme, a sa mélodie à lui, sa manière de chanter le chant lui-même, sa mélodie. Et vous savez d'ailleurs que chez les chassidim, eh bien, chaque, je ne vais pas dire secte, chaque communauté, disons, a la mélodie du rab, fondateur de la Neginat Chassid.
Parler de chant ou de rayonnement d'être ?
Ah non, une mélodie, ma mère. Une mélodie, oui, au niveau du chant. Indépendamment de la religion, encore autre chose. Et sa manière de siffler. Bon, avant les trois choses, le nom, le chant. Hein? Et alors, ces choses-là, dans les sociétés traditionnelles, c'est secret. On les dit qu'aux amis, ceux avec qui on est en alliance d'amitié. Encore deux. Et vous pourrez d'ailleurs trouver dans les comportements caractéristiques de la personne humaine d'autres comportements caractéristiques qui dévoilent l'être profond. Enfin, ce que les poètes appellent le jardin secret. On ne laisse rentrer quelqu'un dans son jardin secret que si c'est un ami. Ça veut dire que s'il ne va pas piétiner les plates-bandes. Enfin, vous comprenez un peu le problème. Alors, vous comprenez pourquoi ce problème de la communication est si difficile ? Parce que, bon, pourquoi je vous parlais de tout ça ? C'est-à-dire que. Il faut qu'il y ait sécurité pour que la liberté soit possible. C'est clair ? Or, il n'y a que le déterminisme qui nous donne sécurité dans le monde. si je suis dans un monde tel que le conçoit la conscience magique, la conscience affolée, je ne sais pas ce que le dieu de la porte, que dans les sociétés secrètes on appelle le gardien, hein, le dieu gardien, va faire de la porte dans les temps qui suivent. Jusque-là, il peut s'ouvrir, peut-être dans 5 minutes, il va décider qu'elle ne s'ouvre pas. Vous voyez un peu le monde de la conscience magique, la conscience affolée. Voilà la limite de la conscience superstitieuse. Ils sont parlés. Ce qui revient au même, comprenez bien que c'est de la maladie mentale. Et on est arrivé à établir qu'il y a des bases physiques à ces types de conscience. Par exemple, ces carences alimentaires dont je vous ai parlé. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Je veux dire, ça se soigne, ces choses-là. Et c'est l'accès à la conscience lucide, à la conscience majeure. La sortie, si vous voulez, de la conscience magique, c'est une chose très importante. Et la sortie de la conscience magique, c'est la perception du principe du déterminisme. Bon, alors je voulais traduire cette analyse par rapport à ce qu'est le principe de la tradition juive, que loin que le déterminisme a annulé la liberté humaine, c'est au contraire le déterminisme qui fonde la liberté. Voilà, si je voulais vous rappeler ce qu'on a étudié la dernière fois, et que ça va plus oublier.
Le problème, c'est que l'homme, il est l'individu est confronté à deux choses. Enfin, il y a la nature et la société. Et souvent, il ne perçoit la nature. Oui, mais est-ce qu'il ne perçoit pas la nature en fonction de la société qu'il a produite?
Je vais vous dire, l'homme civilisé, moderne, comment dire, abonné au gaz, etc., l'homme des civilisations. C'est un homme très artificiel. Et là, tu as raison, il n'arrive plus à percevoir le lien avec la nature. Tout chez lui est artificialisé. Il vit dans un cocon d'artificiel qui est la cité. Okay? Bon, là, tu as raison, mais malgré tout, il vit dans un monde de discours absolument artificiel qui lui masque la vraie nature. Mais malgré tout, quoi qu'il en soit, il y a ces deux limites à la liberté, la détermination des lois. Et d'autre part, la volonté de l'autre homme qui passe à travers la paix sociale. Ça, c'est, je relis ta vision de la société, bien sûr. Mais ça rappelle plus ce qu'on a vu tout au début, mais j'ai essayé de faire un peu de mémoire quand même. C'est que je vous ai dit que l'homme était toujours quasi, c'est une notion relative. On est plus ou moins conditionné, plus ou moins libre. Au fond, il y a une invitation à une libération, qu'on appelle la sortie d'Égypte, en termes religieux. Okay? C'est Yetziat Mitzrayim. Être libéré de ces conditionnements. On est plus ou moins conditionné, plus ou moins aliéné, comme on dit le mot. Okay? Je crois que le terme est bien choisi. Être aliéné, c'est vraiment être aliéné. Okay? Il n'y a pas d'autre. Et alors, fais bien attention à cela. C'est que c'est l'accès au principe du déterminisme qui est le commencement de la modernité. Or, les Hébreux sont entrés dans la modernité avec Abraham. Alors, lorsqu'il a reconnu un créateur qui est entré dans le Shabbat. Voilà. C'est clair? Bon. Alors que les Occidentaux ont attendu. Pas pour entrer dans la modernité, ils ont entendu Aristote et ça réussit qu'après Descartes. Jusque-là, ils étaient dans la conscience magique, dans les mythes. Et dans cette conscience magique affolée, il y avait des individus lucides, mais qui étaient secrets, parce qu'on les aurait, brûlés vifs. Vous vous rappelez les mœurs de la conscience magique, okay? Comme on a fait voir la cellule à Socrate. Okay? Et alors, il a fallu sortir de cette conscience magique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des individus initiés à cette lucidité de l'homme hébreu, si vous voulez, dans le principe, bien que ça puisse paraître anachronique. Mais finalement, l'Occident est entré dans la modernité qu'au moment de la Renaissance. Et c'était annoncé par des grands individus, des grands génies à l'échelle individuelle. Mais c'est à peu près à la Renaissance que l'Occident est entré dans la modernité. Le peuple hébreu est entré dans la modernité avec Abraham. Vous avez compris le. De ce point de vue-là. Donc, peut-être que cette mentalité que le déterminisme a mis la liberté, c'est le passage au niveau philosophique de la mentalité fataliste des religions astrologiques. Comment c'est laïcisé? Quelle était la mentalité de la religion astrologique? Nous sommes soumis à un destin astrologique, à un horoscope, et par conséquent, tout est fatal, il n'y a donc pas de liberté. Okay? Alors c'est un peu cela le matérialisme rationaliste moderne, mais laïcisé. C'est les lois de la nature qui sont le contraire de l'idée de liberté. Un matérialiste rationaliste moderne conséquent, qui ne se rattacherait pas à l'intuition de la liberté par un autre côté de son âme, mais conséquent, eh bien, vit dans un monde sans espérance, vit dans un monde mécanique, vit dans un monde fatal, comme on l'est. Il a quand même besoin d'une espérance. Alors en général, il s'en invente. Et quand il n'en est pas capable, il a cherché un juif. Les chrétiens, les marxistes, les freudiens. Finalement, on retrouve les mêmes axes d'analyse. C'est vrai ? Bon. Mais en général, c'est cela la mentalité de l'Occident, livré lui-même. Ils sont arrivés à cette impasse. Que la notion de liberté n'a pas de base dans la pensée occidentale. Et quand un penseur de l'Occident adhère à la notion de liberté, c'est d'autre part qu'il s'agit de l'esprit. C'est parce que d'autre part il est branché sur une autre intuition. En général, une intuition d'origine étrangère. Et c'est vrai.
Là, si je l'ai compris, vous parlez à un niveau individuel, c'est-à-dire chaque homme a une volonté, etc.
Chaque homme
a une volonté qui peut s'exercer sur le monde qui est déterminé. Mais au niveau de une collectivité, comment est-ce que ça s'exprime?
Oui, regardez, je vais vous prendre l'humanité comme collectivité. Bon, eh bien, grâce à la science et à la technique, elle peut se libérer de tous les conditionnements matériels. Si au lieu de perdre son temps sur la guerre, elle donnait toute son énergie à la science et à la technique, la connaissance des lois du fonctionnement physique du monde lui permettrait de les maîtriser et de transformer cette planète en paradis terrestre en une génération. Mais là, peut-être ta question est tout autre sens. Je veux dire que la collectivité n'a pas de possibilité d'être autre que ce qu'elle est, elle n'est pas libre d'être autre que ce qu'elle est. Alors que l'individu a l'illusion qu'il pourrait être autre que ce qu'il est. Mais l'individu en a l'illusion. Mais ce n'est pas le problème de la liberté. Je veux dire, de la même manière qu'un arbre n'est pas libre d'être un arbre ou autre chose. C'est ce qu'Aristote appelait une vertu cardinale. Et vous savez d'où vient le terme de cardinal? Ça vient du mot grec qui signifie la charnière. De la même manière que la charnière est charnière et pas autre chose, et alors sa vertu c'est d'être charnière. Alors, de la même manière, un homme est un homme, sa vertu cardinale c'est d'être homme, une rose est une rose, un pamplemousse est un oui. Un pamplemousse est un pamplemousse et une anchoise est une anchoise. C'est la vertu cardinale. Ça, on n'est pas libre. Mais quelqu'un qui voudrait être libre d'être autre chose que ce qu'il est, il rêve. Bon, ne s'en parle pas. On est libre de rêver. Vous avez compris? Alors, au niveau d'une collectivité, ça se perçoit de manière absolue. Un clan n'est pas libre d'être autre que ce qu'il est. Prenons les hommes d'Israël. Au niveau du clan d'Israël, le clan d'Israël n'est pas libre d'avoir une autre histoire que celle qu'il a. Et quand il cherche à avoir une autre histoire que celle qu'il a, toutes les catastrophes se déchaînent. Et ça l'empêche. Et il peut pas. Vous avez compris le problème. L'individu, lui, croit qu'il est libre d'être autre que. C'est qu'il y a un sursis donné à l'échelle individuelle. C'est vrai, il y a une dimension de liberté, mais jusqu'à un certain point. En fait, quand il se dévoile que même l'individu, en tant qu'il fait partie du clan, n'est pas libre non plus, mais il a quand même cette possibilité d'en avoir l'illusion. Mais ce n'est pas notre problème. Moi, je parle de la liberté de libre arbitre, rappelez-vous le cours de la dernière fois. La liberté d'action, choisir entre cette action que je connaîtrai comme bien et cette action que je connaîtrai comme mal. Okay? Je ne parle pas de la liberté d'être autre chose que je suis. Il y a un problème d'adolescence. Bon, je n'en parle pas par expérience, j'ai été aussi un joueur adolescent, 6 ans, 7 ans. Eh bien, il m'en reste quelque chose. Mais, chez les adolescents, on est travaillé par cette espèce de tentation irréelle, être quelqu'un d'autre. Mais c'est une illusion absolue. Et c'est quand on se guérit de cela qu'on commence à devenir soi-même, c'est-à-dire quelqu'un. J'ai compris ce que tu veux dire. Je sais pas, il y a des expressions banales, être bien dans sa peau, etc. S'accepter, s'assumer, bon, on peut inventer des mots grandiloquents. Okay? Mais la chose est très simple, être ce que l'on est. La véritable tentative authentique, c'est être ce que l'on est mieux. Mais être quelqu'un d'autre, ça n'existe pas. C'est une maladie, hein? Ça sourit. Quelqu'un qui prend ça au sérieux, vouloir être quelqu'un d'autre, c'est la paranoïa. Hein? Alors je ne veux pas ça. Il y a une revue que je lis souvent, parce que dans les choses les plus banales, comme je voyage beaucoup, c'est celle que j'achète au kiosque, mais dans les choses les plus banales apparemment, il y a des fois des pensées profondes. C'est les sciences, je lis d'un digeste. Alors là, j'étais frappé par. C'est pour m'endormir que je dis ça, mais des fois ça me réveille. Et alors, j'ai été frappé. Vous savez que quand on est vraiment à la recherche de la sagesse, on apprend partout, même en lisant le journal. Et c'est ma femme.
Le capitaine, de qui on peut dire qu'il est haram?
Celui qui apprend de n'importe qui.
De tous. Bon, ça n'a rien de négatif, finalement. Alors, bien sûr, qui revient souvent, l'être le plus extraordinaire que j'ai connu. Et on vous raconte. Bon. Et c'est des histoires très intéressantes. Mais la vraie réponse, c'est que chacun doit se donner, c'est l'être le plus extraordinaire que j'ai connu, c'est moi. Donc, on n'arrive pas là. On n'est pas sorti de l'enfance. Est-ce que c'est clair? Bon, tout de suite, il ne faut pas parler du danger de l'orgueil, c'est un autre problème. Okay? Mais arriver à savoir que chacun est un génie pour lui-même. En tout cas, il y a quelqu'un qui le sait, c'est le bon Dieu qui nous a créé. Pourquoi Dieu m'a créé moi? Il sait ce qu'il fait. Donc, il doit y avoir une raison. Bon, quand j'étais jeune, je croyais qu'on était deux à le savoir lui et moi. Maintenant, je sais qu'il y en a qu'un, c'est lui. Moi, je ne sais pas. Okay? Mais en tout cas, il y a ce point de vue. C'est clair? Bon. Et alors, c'est je vous cite le Midrash, mine de rien. Et alors, c'est ça le problème. La véritable Shemifa, exigence, inspiration, c'est d'être soi-même, et mieux, de mieux en mieux. Être quelqu'un d'autre, jamais personne n'a souhaité. Quelqu'un de normal. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est bien. Bon. Et ce qu'il faut complètement découvrir, c'est qu'effectivement, chacun est un génie irremplaçable pour lui-même. C'est ça que nous voulons. Vous avez des questions là-dessus? On regarde les vidéos. Jusque-là, ça va? Donc, pourquoi vous avez parlé de ça? La liberté d'être dans une pareille société. Alors, ce qui est sûr, une minute, je voudrais quand même enrichir cela un peu, c'est qu'un clan n'est pas libre. L'individu est libre dans une espèce de dimension d'une illusion. Il y a un cas particulier, c'est changer de clan pour entrer en Israël. Mais d'un clan à un autre clan, en dehors d'Israël, on ne peut pas. Mais changer de n'importe quel clan, de n'importe quel clan pour entrer en Israël, c'est le cas particulier dans l'histoire humaine. Pourquoi? Parce qu'Israël n'est pas un parmi les autres. Israël, c'est la lignée humaine du Yéhanan et l'autre. Donc n'importe qui peut sortir d'une impasse et au Motarola, mais rentrer à la maison. C'est clair, vous comprenez? Voilà pourquoi il y a un cas particulier. On peut devenir Israël. On ne peut pas devenir une autre manière d'être. Jamais quelqu'un ne deviendra français. Jamais s'il ne l'est pas de naissance. Jamais quelqu'un ne deviendra allemand s'il ne l'est pas de naissance. Son arrière-petit-fils, c'est la longue. Mais c'est qu'il n'est plus français, alors il est allemand. Ou du moins inversement, il est allemand parce qu'il n'est plus français. Vous voyez? Et bon, il y a des juifs qui se prennent pour n'importe quoi, mais ils savent très bien qu'ils jouent à une histoire de. Enfin, je vous vos histoires. On peut être citoyen, mais pas français, mais ça ne rend pas quelqu'un français. De ça, je vous ai parlé longuement. Vous comprenez? Mais juifs, on peut le dire. C'est un cas particulier. C'est-à-dire, la seule manière d'être homme qui n'est pas raciste, c'est le juif. Tous les autres, par définition, sont condamnés à l'école. Parce qu'on ne devient pas ce que c'est. C'est clair ce que vous avez dit? Bon. Alors, j'espère que ça vous évacue énormément de clichés, de faux problèmes, de fausses questions, de malentendus, de questions posées à l'envers, etc. Alors, ceci dit, il y a des règles, à condition que ce soit authentique. C'est sûr. Et alors, je vais vous donner un exemple. Regardez la différence qu'il y a entre un juif et un israélien sur ce terrain. Et vous comprendrez bien la différence. Ça vous ajoutera un exemple de cette différence dont je vous parle souvent entre l'identité juive de l'exil et l'identité hébraïque d'Israël. C'est qu'un juif a l'illusion qu'il peut être autre chose qu'un juif. Un israélien ne l'a pas. Un israélien, un israélien, il est redevenu hébreu. Un hébreu n'est pas libre de ne pas être hébreu. Un juif croit qu'il est libre de ne pas être juif. Mais c'est quand même une illusion, parce que c'est quand même hébreu, refoulé, profond. Et il faut faire renaître cela. C'est une illusion. Mais c'est une illusion qui est là. Les juifs croient qu'ils pourraient être autre chose que juif. Un israélien, la question ne se pose plus, parce qu'il est redevenu hébreu. Vous avez compris là, non? Voilà un exemple qui peut vous éclairer. Et c'est clair. Alors là, tu as raison. Un clan. N'est pas libre d'avoir une histoire autre que ce clan-là. L'individu peut quitter ce clan et rentrer en Israël. Je pensais à l'Allemagne. L'Allemagne ne peut pas. S'il est le clan de la nation allemande, et ce qu'il est, il ne peut pas être autrement que ça. Alors il faut savoir quelle est la typologie des nations avec lesquelles nous avons affaire. Ishmaël ne peut pas faire autrement que d'être Ishmaël. À l'échelle collective, n'importe quel individu peut être autrement que ça. Etc. Bon. Mais toujours, retenez bien ce principe. Plus on est au niveau être collectif, moins il y a de liberté. Plus on est au niveau être individuel, plus il y a de liberté. Et donc de capacité d'erreur, et donc de fallibilité, et donc de capacité de faute, etc. Vous avez compris ? Plus un individu participe d'une échama clalite à une identité collective, et moins il est faillible. Dans les, tous les sens que vous avez. Tout ce qui se passe dans sa vie est signifié de façon évidente, parce qu'il est clave. Alors que l'individu, à l'échelle individuelle, ce qui se passe dans sa vie n'a aucune importance du point de vue de la forme. Si c'est aujourd'hui qui fait ça, aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Mais plus on est prêt, c'est ça la touche. Je vous laisse encore une phrase sur ce problème. Vous lirez toujours pour la liberté quand on avance un peu plus. Et le tzaddik véritable n'a qu'un seul souhait, c'est de perdre cette liberté de libre arbitre. Pourquoi ? Parce que c'est à travers cette liberté de libre arbitre que nous sommes capables de faire des fautes. C'est clair ? Après, nous parlons de notre liberté, la vraie liberté.